Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. Faire du voyage une érudition sensible, c'est un art auquel s'emploie brillamment l'autrice d'origine bulgare Kavka Kassabova, livre après livre. Et que l'on referme Lisière, son premier ouvrage publié en France aux éditions Marchiali, ou L'écho du lac, on en ressort à chaque fois avec l'impression tenace d'avoir fait soi-même, lecteur, un grand voyage. Du genre qui vous fait ou vous défait, comme disait Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur suisse. Nicolas Bouvier, on le retrouve sur le chemin de Kavka, puisqu'en 2020, elle a reçu pour Lisière le prix Bouvier du nom de l'auteur, décerné par le grand festival français Étonnant Voyageur. Mais aussi parce que Bouvier avait très tôt perçu ce que Kavka, enfant bulgare, né en 1973 à l'ombre du rideau de fer, a connu dans sa chair, soit la force et la fureur des Balkans, terre de larmes et de musique, de brassages et d'exodes, d'empires déchus et de nations malades, de destins singuliers qui ensemble conjuguent au pluriel notre grande histoire humaine. Aujourd'hui, on file à l'est et au sud de l'Europe, entre la Grèce, la Bulgarie, la Turquie ou encore la Macédoine et l'Albanie, en compagnie d'une écrivaine pour qui la géographie et les lieux façonnent l'histoire et l'âme de ceux qui les peuplent. Avec au centre, les frontières, tangibles et intangibles, géographiques ou sensibles, historiques, mais aussi magnétiques.
C'était pas la mer qui m'attirait. Moi, j'ai vécu dans une ville de mer. Et pour moi, la vraie frontière de l'aventure, c'était la ligne du rideau de fer. Je suis à Trieste. J'étais à 10 km de la vieille Yougoslavie communiste. Donc il y avait toujours l'image d'un pays complètement différent, comme régime, comme idée politique, comme mœurs, comme chanson, comme femme, comme humanité, comme anthropologie. Pour moi, la frontière était importante pour l'imagination du voyage. Cette frontière est aussi le cœur du continent. Aujourd'hui, personne ne raconte plus et personne n'écoute plus. Donc, mon premier devoir, c'est d'écouter la voix des lieux du silence, des lieux qui n'ont pas une voix.
Kavka Kassabova, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous à l'occasion de votre passage en France. Là, on vient tout juste d'entendre Paolo Rumise, un écrivain nomade italien, lui-même lauréat du prix Bouvier en 2015, et qu'on avait reçu à cette occasion dans l'émission. Paolo Rumise a longuement voyagé le long de la frontière orientale de l'Europe, et il se dit fils de la frontière. Et à votre manière, vous aussi, Kavka Kassabova, vous êtes fille de la frontière, puisque vous êtes née dans la Bulgarie communiste, à l'ombre du rideau de fer, comme on dit.
Oui, toute ma génération, en effet, et la génération de nos parents, nous sommes des enfants du rideau de fer. Mais dans un sens plus grand, on peut même dire que nous sommes tous en Europe des enfants des guerres européennes du XXe siècle. Nous sommes les survivants. Nous emportons l'héritage.
Sachant que vous êtes né donc en Bulgarie, mais vous avez quitté votre pays. Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 17 ans et je suis de la génération qui a en effet grandi au moment où le rideau de fer est tombé, la guerre froide et s'est terminée. On était adolescents et ma famille a été une des premières, c'est-à-dire on faisait partie de la première vague d'émigration en masse de l'Est à l'Ouest, si vous voulez, au début des années 90. Et on était émigré en Nouvelle-Zélande. Mon père est professeur d'université et c'était la raison. On s'est trouvé en Nouvelle-Zélande. Où d'ailleurs, j'ai fait des études en littérature française.
C'est ça, j'allais vous en parler, ce qui explique pourquoi vous parlez français.
Oui, en effet, ça a commencé à Sofia où j'étais élève dans le lycée français de Sofia. Et après, j'ai continué. Le français, la littérature française, la culture française est devenue un peu ma passion et j'ai continué en Nouvelle-Zélande à l'université.
mais vous écrivez en anglais. Dans vos livres, à chaque fois, il y a une résonance très forte des lieux, des éléments naturels, la montagne, la forêt, les lacs, à l'intérieur de ceux qui les peuplent. On est finalement enfant du lac, comme votre grand-mère, on va en reparler, enfant de la forêt ou de la montagne, des paysages intérieurs que vous dessinez avec vos mots et que vous cherchez aussi en voyage, chez tous ceux que vous croisez en chemin. Vous-même, d'ailleurs, quand on vous lit, on sent à quel point vous êtes traversé par les lieux que vous parcourez. Dans une, je lâche le mot, géopoétique, en quelque sorte. Parce qu'avant le récit du voyage, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la non-fiction narrative, je crois que c'est le mot un peu barbare qu'on utilise, la poésie, c'était votre premier moyen d'expression pour raconter le monde.
Oui, tout à fait. J'écris de la poésie depuis l'enfance. Et même, il y avait un été à Sofia que j'ai passé à l'hôpital. C'était l'été après l'explosion de Tchernobyl. Et bon, je me suis trouvée à l'hôpital et j'ai passé du temps à traduire Les fleurs du mal de Baudelaire en bulgare, qui était déjà bien traduit, mais je m'amusais comme ça. Et c'était, ouais, c'est la poésie. Je pense que même si j'écris de la prose, de la non-fiction narrative, justement, c'est mon point de départ a toujours de quelque chose du poétique, parce que je cherche toujours, je m'intéresse aux symboles. Voilà, les motifs, les symboles, la forme des phénomènes, la forme des histoires familiales, la forme même des émotions. Et dans un sens, je sais pas, c'est un peu mon destin peut-être de m'émerveiller des géographies diverses. De l'enfance, des récits géographiques m'attiraient. Et j'aimais les récits de voyage, en commençant par Jules Verne, Jack London, et même Pushkin avec ses ballades, des ballades de voyage. Donc pour moi, la géographie a toujours été une expérience plutôt qu'une idée, c'est-à-dire une expérience à la fois intérieure et extérieure.
Sachant qu'aujourd'hui, vous vivez en Écosse, où les paysages aussi disent beaucoup.
Oui, la terre parle. Et pour moi, l'Écosse du Nord, où j'habite, est un lieu comme ça. Et évidemment, les Balkans du Sud, qui sont mon lieu de naissance, mon lieu ancestral, me parlent.
Alors justement, dès 2013, il va y avoir cet appel de la frontière, à la fois intime et géographique. Vous décidez alors de retourner pour la première fois depuis 25 ans sur vos terres natales, afin d'en tutoyer les frontières entre la Bulgarie, donc, la Turquie et la Grèce. C'est ce que vous racontez dans Lisière, un récit de voyage à la fois personnel et ethnographique sur ces confins de l'Europe, souvent méconnus, perçus aussi comme périphériques. Sauf que vous, vous en faites le centre de votre récit et de votre voyage. Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement, au juste, dans cette histoire? C'était quoi, cette volonté de décentrer, ou plutôt recentrer la vieille Europe, de donner peut-être aussi une voix, comme disait Paolo Rumiz, qu'on a entendu, à des lieux passés sous silence, il disait.
Je pense que pour moi, ça, un livre commence toujours avec quelques émotions, avec un amour, un émerveillement, ou de la colère, ou ce sentiment avec lequel j'ai grandi de l'injustice. Et l'injustice de la frontière, justement, du rideau de fer, ce sentiment d'être dans une prison ouverte à l'air libre, une prison ouverte. Je voulais y retourner, car vraiment, la frontière m'a formée. C'est-à-dire, même si j'ai grandi à Sofia, loin physiquement de la fronte du rideau de fer, j'ai grandi dans une dictature propagandiste, et c'est en effet la propagande, c'est toujours une culture de frontières, ça crée toujours une idée d'ennemi, de lignes qu'on ne peut pas croiser. Et il fallait absolument que j'y retourne. Et c'était aussi de la curiosité pour ce monde autrefois fermé, le monde de la frontière militarisée, qui est aussi le monde de la montagne, parce qu'il s'agit de deux chaînes de montagnes entre la Bulgarie, la Turquie et la Grèce, très intéressantes. C'est un monde en soi-même, en effet. Donc quand j'ai commencé à croiser les gens de la frontière, j'ai vu que c'était aussi des gens de la montagne, avec toute cette culture immense qui précède de milliers d'années la culture de la frontière, en effet.
Alors, sachant que depuis tout à l'heure, on parle de frontières, mais votre livre, en français en tout cas du moins, s'intitule Lisière. Lisière comme une couture dans les plis du monde, alors que la frontière fait plus l'effet d'une cicatrice ou d'une entaille qui sépare et divise les peuples pour mieux, sûrement, certainement, asseoir les nations. Mais qu'elle relie ou sépare ces zones frontalières, vous l'avez dit, sont des mondes en soi. Et quel monde ? C'est ce qu'on se dit en vous suivant dans Lisière sur plus de 450 pages. Début du voyage, au bord de la mer Noire, sur l'ancienne Côte d'Azur communiste, où petite, vous passiez vos vacances en famille non loin de la Granitsa, ou frontière en bulgare, entre touristes en sandales, candidats à l'exil, et agents du KGB ou de la Stasi déguisés en barman, parce que tout proche, sur la même rive, il y avait la Turquie, porte vers l'Europe. Et 30 ans après, voilà ce que vous écrivez dans Lisière.
C'était de nouveau l'été à mon arrivée 30 ans plus tard. À l'aéroport de Bourgas, la piste d'atterrissage était bordée de vignobles et une odeur de kérosène et de luxure imminente embaumait l'air. Ayant quitté Édimbourg avec une compagnie aérienne prisée des vacanciers, j'avais voyagé à bord d'un avion bondé d'hommes tatoués et de femmes au rire et au maquillage ostentatoire. Je foulais le sol bulgare en compagnie de Russes, moites et survoltés, de jeunes Scandinaves boutonneux avec les hormones en ébullition, de familles hautes emblèmes descendues d'autres latitudes septentrionales. Depuis cette ville portuaire effervescente, les touristes de masse venus des quatre coins de l'Europe pour se payer du bon temps étaient expédiés vers les résidences balnéaires trépidantes de Sable d'Or ou de la Côte du Soleil. Ma Riviera Rouge était devenue un joyeux enfer sur terre dédié au capitalisme mondial. Mais j'étais venue ici pour la Strandja, jadis interdite, pas pour le littoral. La Strandja, vous saviez que vous veniez d'y pénétrer lorsque la circulation cessait tout à coup, laissant la forêt vous happer. La route devenait chaoteuse, ouatée d'un vert luxuriant, un vert de jungle renfermant une multitude de lagons moussus et de mégalithes sacrés naguère utilisés lors de cérémonies dionysiaques. Je croisais un seul autre véhicule en tout et pour tout, une carriole qui me frôla, conduite par un couple de gitans qui découvrirent des dents en or en me décochant un sourire éclatant, comme si tout allait pour le mieux. Des panoramas dégagés se déployaient sous les lacets haut perchés, telle une gifle qui vous étourdit. Vertige de velours, un monde replié sur lui-même, comme s'il vous incitait à plonger pour refaire surface de l'autre côté des abysses.
Kapka Kasebova, dans cet extrait, on plonge donc avec vous dans la Strandja, ultime massif montagneux des Balkans que vous décidez d'arpenter. La Strandja et sa forêt épaisse, énigmatique, ont longtemps servi, c'est ce que vous écrivez, de frontière verte entre la Bulgarie et la Turquie. Sont des lieux particulièrement chargés, on peut le dire, vous parliez de fréquence. Et si on se met sur la fréquence Strandja, on entend, on écoute autant la mémoire des traces, cette civilisation antique qui a laissé derrière elle certainement plus d'or que de traces écrites, mais aussi la mémoire de tous ceux qui un jour ont tenté de passer à l'ouest, parfois au prix de leur vie. Et dans Lisière, comme dans le suivant d'ailleurs, dans votre autre livre, L'écho du lac, vous mêlez toujours le passé, parfois très ancien, et le présent des lieux. On navigue comme ça dans un récit à tiroir, dans une succession d'histoires entre mythes antiques, drames de la guerre froide et présents quand même un peu déglingués. Pourquoi ce choix complexe, exigeant ? C'était pour rendre compte et donner toute sa cohérence à la réalité qui est finalement tout aussi complexe, sinon plus.
Dans un sens, c'est exactement ça. C'est que les lieux eux-mêmes dirigent le caractère de mon écriture. D'abord, les lieux dirigent le caractère de mon expérience, c'est-à-dire toutes les rencontres
de
que je
voyage.
Fais. Du voyage, de ce voyage qui doit être, par définition, tout à fait ouvert et sans agenda. Et que c'est surtout les rencontres avec les gens vivants qui m'intéressent. Mais dans de pareils lieux, on ne peut pas éviter aussi les rencontres aux
morts.
Avec
le passé.
Avec le passé. C'est-à-dire le passé ancien, comme par exemple les tombeaux des traces qui sont partout dans le Strandja. et aussi le passé récent. Les jeunes Allemands, Polonais, Européens de l'Est qui ont essayé de pénétrer cette frontière et qui ont été fusillés. C'est le caractère des lieux qui est tellement protéiforme, qui contient tellement de souches. C'est vraiment une archéologie de terrain, mais aussi une archéologie psychique. Et pour moi, c'était le défi de ces lieux, c'est de pouvoir en parler de façon juste, de façon démocratique, généreuse et humaine.
De rendre justice aux lieux.
Voilà. Et c'est vrai que si on gratte, on ne fait que gratter à la surface, il commence à sortir des histoires incroyables. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que la réalité dépasse la fiction. Tout ce que je raconte, c'est de vraies histoires. Et on m'a souvent demandé, mais est-ce qu'il y a quand même un peu de fiction là-dedans? Et bien non, c'est les lieux qui parlent. Et ça me rend heureuse qu'il existe toujours des lieux comme ça, qui ne sont pas comme le Strangia, par exemple, qui est la montagne peut-être la moins connue de l'Europe. Qu'il y a des lieux comme ça qui ne sont pas encore tout à fait explorés, tout à fait expliqués, racontés, fouillis, qu'ils recèlent toujours des secrets, des histoires, une atmosphère qui fait rêver.
Et alors justement, chemin faisant, on découvre à vos côtés des villages fantômes, des chasseurs de trésors, des presque chamans bardés d'icônes qui marchent sur des braises dans des rites païens et orphiques, pendant que des combinards, en survêt de contrefaçon, avinés à la raïka, croisent des veuves, drapées de noir, des réfugiés d'hier et des migrants d'aujourd'hui, qu'ils soient afghans ou syriens. Ça fait que ces lieux quand même, et vous l'avez dit, sont nimbés de mystère et on se dit qu'ils sont tellement éloigné des grands centres, des capitales déclarées, que tout semble encore possible, probable, voire magique. Et vous dites même à un moment, en ces lieux, la folie guette. Pourquoi ?
C'est des lieux hantés. Ce n'est pas l'exotisme, il faut le dire très clairement. Il ne s'agit pas de romantiser ou de faire de l'exotisme littéraire, parce que c'est les événements qui se sont déroulés dans ces lieux dans les derniers 100 ans, sont tellement dramatiques et souvent tragiques qu'il ne reste pas d'exotisme. Mais s'il reste quelque chose du hanté, c'est...
Mais vous parlez de géographie traumatisée.
Tout à fait. Et le moins qu'on parle de ça, le plus le traumatisme s'installe de façon même gothique. C'est ça le gothique, c'est ça l'horreur. C'est quand on n'en parle pas et que ça s'installe sous la peau, que ça commence déjà à se transmettre de génération en génération. Mais en ce même temps, ce qui m'intéresse, c'est la créativité énorme de la survie, de la... Voilà, les gens de la frontière m'ont vraiment changé la vie. Ces rencontres avec des paysans, même avec des réfugiés, avec des bergers qui accueillent les réfugiés oubliés par l'État, exploités par les trafiquants de gens, m'ont vraiment ouvert les yeux et m'ont humanisé.
Oui, parce que votre livre se déploie comme une formidable galerie de portraits, au contact, vous l'avez dit, de forces de la nature aussi, des cuirassés un peu de l'existence, au destin plus romanesque que tous les romans, car le réel, et vous l'avez dit, dépasse bien sûr toutes les fictions. Et à ce titre, Capka Kassabova, une référence, une figure revient souvent chez vous, c'est celle d'Hérodote. Archivina, 1997, avec la voix lumineuse du grand écrivain voyageur français Jacques Lacarrière, parti lui-même sur les traces de celui qu'on a surnommé le père de l'histoire.
Ce qui est intéressant avec Hérodote, donc, c'est que on pourrait dire que ce n'est pas seulement le premier des voyageurs, c'est le premier des écrivains voyageurs. En tout cas, l'un des tout premiers à être parti en voyage pour en rapporter le récit de ses découvertes, de ses rencontres et de ses constatations. Parce qu'il faut bien dire qu'avant cette époque, le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait énormément de voyageurs, c'est pas Hérodote qui a inventé les voyages. Mais ces voyageurs étaient ou des commerçants, ou des pirates, ou des espions, ou des soldats. En général, on voyageait que pour cela ou pour fonder des colonies lorsqu'on ne pouvait plus vivre sur place. Autrement dit, pour des motifs qui étaient toujours économiques ou parfois d'ailleurs religieux, mais jamais pour en rapporter un récit destiné à instruire ses contemporains des autres pays et des autres mœurs. À tort ou à raison, les Grecs se considéraient comme particulièrement civilisés, puisque le terme barbare qui vient du grec veut dire simplement en grec « barbarizo », ça veut dire « parler mal le grec » en réalité. Ils ne les méprisaient pas pour autant, mais ils considéraient qu'ils n'avaient pas atteint le niveau de civilisation de la Grèce. Mais Hérodote, lui, fait un petit peu abstraction de tout ça et essaie simplement de comprendre et de regarder. Hérodote a été le premier à dire que l'être humain est unique.
Voyager pour comprendre le monde et mieux le partager avec ses contemporains. C'est ce que vous avez cherché, vous aussi, finalement, dans ces lisières, Capka Kassabova.
Qu'est-ce que je cherchais ? On cherche toujours une partie perdue de soi. On cherche, en effet, je pense que on cherche ce qui a été perdu, ce que nous ressentons comme perdu. Un peu le paradis perdu, peut-être. Afin d'arriver à, je sais pas, à une expérience de la vie plus complète, avec l'ombre, avec la lumière. Mais je ne me sentais pas vraiment au centre du récit. C'est-à-dire, j'étais au centre de mon propre voyage, mais ce n'est pas un livre de ma vie. C'est un livre de la vie de la frontière et des montagnes.
Un livre de la relation, peut-être aussi, parce que la frontière, c'est vrai que c'est le lieu de la reconnaissance aussi de soi et des autres. C'est le lieu de la relation.
Tout à fait, la frontière est un peu comme un labyrinthe. C'est un lieu qui a de réfraction, de réflexion, où tu vois ton voisin et qui ressemble à toi. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, de voisins qui m'ont beaucoup touchée. Par exemple, l'histoire du berger turc qui, dans les années 70, a vu un berger de l'autre côté de la rivière frontalière, un berger bulgare. Et donc, il lui a fait un signe, il a dit bonjour. Et du coup, des soldats turcs, donc de son propre côté, l'ont entendu, l'ont fait arrêter. Ils l'ont mis en prison pour la trahison nationale, c'est-à-dire pour avoir parlé avec l'ennemi de l'autre côté de la rivière. Il a passé des ans et des ans en prison.
Parce qu'il était entré en relation avec lui.
Voilà. Donc c'est le prix qu'on paye pour son humanité.
Hérodote disait que l'histoire et la géographie sont indissociables. Et on se rend bien compte dans votre livre à quel point, et vous l'avez dit, les frontières sont poreuses, mouvantes aussi quant à la faveur de grands virages de l'histoire. Et vous en parlez, que ce soit les guerres balkaniques de 1912-1913, la dissolution de l'Empire ottoman, les conflits gréco-turcs et j'en passe. Les voisins d'hier deviennent tout à coup les ennemis d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on croise dans votre livre lisière à Erdin. En Turquie, Ayşe et Ahmed, ce couple de survivants à leur manière est particulièrement marquant parce que tous deux font partie des Turcs de Bulgarie, chassés du pays en 89 et envoyés en Turquie après une campagne d'assimilation forcée insensée. Un cas d'école, on dit, plusieurs années avant l'éclatement de la Yougoslavie, de tentative en gros de nettoyage ethnique qui va mener plus de 350 000 Bulgares à fuir. Ce que le régime bulgare, d'ailleurs, appellera, et on le découvre dans votre livre, la grande excursion. Ça fait partie des destins que vous avez collectés.
Tout à fait. C'est un épisode très honteux de l'histoire bulgare, de l'histoire des Balkans et de l'histoire européenne, car...
Et que l'on connaît peu, en fait.
Qu'on connaît très peu, et qui est quand même emblématique de ce qui s'est passé après en Yougoslavie, parce que tout est lié, tout est connecté. C'est-à-dire que... L'histoire nationale de tous nos pays européens a l'habitude de faire un peu ce nettoyage ethnique, de ce nettoyage des faits. Et cet épisode honteux, par exemple, de la persécution, c'était de la terreur d'État contre la minorité.
Bulgare, en fait, mais souvent musulmane ou d'origine turque.
Ce sont des gens, il faut le dire, qui sont installés aux Balkans depuis des siècles. Et cet exodus de tout un peuple vers la Turquie était tellement traumatisant et a tellement marqué la Bulgarie et le destin de milliers de familles que pour moi, la seule façon d'en écrire et de le découvrir un peu, ce qui s'est passé, était d'aller à la rencontre de personnes comme Ahmed et Aïché, un couple qui en effet était des enfants à l'époque et qui se sont rencontrés dans le camp de réfugiés de Turc-Bulgare en Edirne, du côté turc. Et je voulais raconter leur histoire qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une histoire très emblématique de ce qui se passe quand la frontière déchire des familles. Et les nations ne sont que de grandes familles.
Et alors justement, au sujet de cet exode massif, à un moment dans votre livre, vous décrivez une photo en noir et blanc qui vous hante encore, c'est ce que vous écrivez. On y voit un garçon et une fillette assis sur une valise à l'été 89, justement pendant cet exode. Le garçon regarde par terre, en colère, l'air honteux, vous écrivez. Mais la petite fille, elle, fixe l'objectif avec le regard d'une âme qui sait, je cite, « avoir à jamais perdu quelque chose sans pouvoir encore dire quoi ». Une âme qui oscille entre laisser couler les larmes ou les ravaler pour faire bonne figure devant l'appareil. Et en lisant ces lignes, je vous avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous, enfant de la frontière et de l'exil, apatride aussi à votre manière, puisque vous interrogez aussi, surtout dans l'écho du lac, pourquoi vous êtes toujours lancé sur les routes.
Oui, quand on ressent qu'on a perdu quelque chose sans pouvoir forcément le nommer, c'est peut-être ça qui me pousse un peu vers ces lieux ancestrales, pas seulement pour moi, mais tous les peuples balkaniques, et qui me pousse à faire des voyages difficiles, mais aussi émerveillants. Et c'est un peu, je ne sais pas, c'est un peu l'exorcisme, n'est-ce pas, que je fais sans même le savoir. L'exorcisme, bien sûr, personnel, il faut commencer avec le personnel pour être sincère. On ne peut pas parler des autres, aller à rencontre sans faire l'enquête sur soi-même et sa propre famille, de tous ces fantômes qui peuplent nos paysages intérieurs et extérieurs, qui nous concernent tous. Et ma grand-mère, qui est de la Macédoine, disait « les Balkans, c'est nous ».
Justement, on va aller en Macédoine et on va y aller en musique. On va écouter la grande chanteuse macédonienne d'origine rome, Esma Redjepova, celle que l'on a surnommée la reine des Gitans, était aussi une grande voix de l'Europe aux origines catholiques, musulmanes et juives et chantait en romani, macédonien, serbo-croate, turc et grec. Elle nous chante ici l'hymne des Roms, du voyage et de la vie nomade, le grand Djelem Djelem. Roma À Si loin, si proche, on continue de voyager à travers les récits de Capka Kassabova, écrivaine nomade d'origine bulgare, vivante en Écosse, qui nous fait le plaisir aujourd'hui de poser ses valises et sa voix, qui plus est francophone, dans l'émission. Capka est l'autrice de Lisière, dont on a déjà longuement parlé, mais aussi L'écho du lac, paru tout récemment en France aux éditions Marchiali. Avec L'écho du lac, on part cette fois donc en Macédoine, sur les rives des lacs Prespa et Ohrid, puisque c'est de là, Capka, vous l'avez dit, que votre grand-mère maternelle vient. Une femme importante d'ailleurs pour vous. Ohrid, j'avais eu la chance de m'y promener en voyage en 2015 en compagnie de Micho Yuzmeski, un guide et écrivain macédonien. On était parti depuis la forteresse du tsar Samuel qui domine la ville jusqu'aux abords du lac, un site sublime aux faux airs de lac suisse.
C'est un lac naturel, surtout, plus ancien de l'Europe. Et on trouve ici tous les plaisirs, la culture et la nature.
Là, pour l'instant, c'est le plaisir de la vue.
Maintenant, c'est oui, c'est ça, le lac, la montagne, la ville. Il faut savoir qu'Ohrid même, comme ville, était la siège d'une organisation religieuse qui s'appelle Archevêché de Ohrid. C'est une organisation chrétienne orthodoxe qui existait ici entre le 10e et le 18e siècle. Et ça veut dire que la ville était le centre de la religion chrétienne pour tous les peuples des Balkans. Quand Saint-Clément d'Ohrid s'est installé là, c'était au 9e, 10e siècle déjà, il avait construit un monastère. Et dans le monastère même, il avait établi une grande mission, c'était une école. Il y a jusqu'à 3500 élèves qui sont venus ici pour apprendre l'écriture slave. Ce sont les mêmes élèves qui ont continué jusqu'à la Russie pour porter l'écriture slave aux Russes et toutes les autres nations de l'Europe. Ohrid est la ville vraiment lumière.
On dit que cette ville, c'est la ville aux 365 églises.
Oui, on a dit beaucoup de fois, on trouve dans les livres aussi. Mais en vérité, oui, si on arrive jusqu'à 23, 24, pas plus. Mais on trouve des restes.
En sous-sol.
Dans la terre, oui, qui appartiennent à l'époque paléochrétienne ou à l'époque byzantine. Quand on commence à faire quelque chose,
à chaque fois qu'on creuse, on trouve quelque chose.
On trouve de l'histoire, de la passé de la ville. Chaque pierre raconte une histoire.
Alors si chaque pierre raconte une histoire sur le lac d'Ohrid, les hommes aussi portent en eux le mélange des cultures typiques, particulières en Macédoine. Micho a évoqué à quel point Ohrid a été jadis un foyer culturel et religieux, la Jérusalem des Balkans comme on l'appelait. Mais avant d'en parler, Capka Kassabova, est-ce qu'on peut, si vous voulez bien, situer ces lacs, Ohrid et Prespa, qui sont des lacs jumeaux, autour desquels, donc, pour l'écho du lac, vous avez longuement voyagé. À quoi ressemblent-ils, ces deux lacs ?
Ces deux lacs sont deux mondes différents en apparence, liés par des rivages souterrains. L'un est plus en lumière que l'autre, la couleur de l'eau est différente, le lac de Prespa n'a pas de source, il n'y a que des rivières qui l'alimentent, tandis que le lac d'Ohrid, lui, est presque transparent, car l'eau est purifiée par la roche karstique de la montagne Galichitsa qui les sépare. Ces deux lacs se trouvent dans le sud-ouest extrême des Balkans. C'est donc un peu l'autre côté des Balkans de Lisière qui se situe dans le sud-est extrême de l'Europe. Et c'est un lieu qui est un peu considéré comme périphérie maintenant, mais qui était pendant très longtemps un centre commercial, religieux, culturel, en grande partie grâce à la Via Egnatia, l'ancienne vie romaine qui passait au nord de lac de l'Ohrid et justement qui traverse l'Albanie de la côte adriatique, l'Albanie, la Macédoine, après la Grèce jusqu'au Bosphore.
Jusqu'à Byzance.
Jusqu'à Byzance, c'est-à-dire, c'était Byzance, c'était l'Empire romain. Et on peut même suivre la Via Egnatia à travers les montagnes si on a du courage et quelques chevaux pour porter vos bagages. Je ne l'ai pas fait.
Mais en parlant de montagnes, excusez-moi, je vous interromps, c'est vrai que les montagnes aussi cernent ces lacs. Parce qu'ils sont tous les deux reliés, vous l'avez dit, par des voies souterraines. Je crois que c'est le lac Prespa qui irrigue en quelque sorte ou alimente le lac d'Ohrid, sachant que ces lacs aussi relient, puisqu'on est sur trois frontières, en tout cas trois nations, à savoir la Grèce, la Macédoine, dite du Nord aujourd'hui, c'est le nom consacré, et aussi l'Albanie. Et en même temps, et on peut le voir sur la carte qui ouvre votre ouvrage, l'écho du lac, il y a ces frontières encore qui traversent les lacs. C'est-à-dire que même vous, en bateau, on vous suit, vous ne pouvez pas aller par l'eau en Albanie, par exemple.
Oui, c'est fou. C'est une expérience très déboussolante, car bien sûr, dans l'eau, il n'y a pas de frontière. Et cette frontière n'existe que dans l'esprit des gens locaux qui portent un peu ce... C'est une sorte de plaies, de traumatisme mental, émotionnel. Et c'est un de mes thèmes dans l'écho du lac. Je cite une psychiatre américaine qui a décrit en trois mots le mécanisme du comportement traumatique dans les familles, dans les individus, et je dirais dans les nations aussi. Répétition, répétition, répétition. On répète sans cesse, sans se rendre compte à quoi ça sert déjà. Et justement, ces frontières des lacs ne servent à rien. Et bon, j'ai découvert avec Lisière que le sort de chaque frontière, de chaque mur, est de se faire tomber.
Sachant que dans ce voyage, contrairement à Lisière, l'idée n'était pas seulement de tutoyer les frontières, il y avait une quête différente, autre, peut-être plus personnelle, on l'a dit. Et cette quête portait le nom de votre grand-mère, Anastasia. Expliquez-nous.
Ma grand-mère vient de quelques anciennes familles du lac et de la ville d'Ohrid. Et je suis grandie avec elle, à Sofia, parce qu'elle a croisé la frontière, justement. Elle a passé son enfance entre les deux pays, ce qui était à l'époque la Macédoine, la Bulgarie. Mais ça s'est compliqué avec l'arrivée de Yougoslavie. Et donc, elle est restée en Bulgarie, elle s'est mariée. Et le reste de sa famille sont restés à Ohrid. Et pendant mon enfance, on faisait chaque 10 ans, un voyage jusqu'à lac d'Ohrid pour voir la famille de ma grand-mère. Et je ressentais toujours, c'était un grand personnage, ma grand-mère. Elle était d'ailleurs journaliste à la radio de Sofia. Elle écrivait du théâtre, de la poésie.
On y revient.
Oui, et je sentais toujours en elle une présence plus que personnelle, une présence de tout un paysage, de tout un peuple. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais je sentais un peu le lac avec ses rivages montagneux, toujours en train de changer de temps, un temps instable, très chargé. Et plein de choses dont on ne parlait pas. Et c'est pour ça qu'elle disait « Les Balkans, c'est nous, c'est notre famille, c'est l'histoire de notre famille. » Et il lui manquait toujours quelque chose. Elle était toujours en état de mélancolie, comme si elle avait perdu quelque chose d'essentiel.
Et c'est ça que vous êtes allée interroger, justement, parce que vous expliquez dans votre livre à quel point vous l'aimiez farouchement et en même temps comment elle était tyrannique à sa manière. Vous interrogez aussi le fait que toute une génération de femmes, plusieurs générations de femmes dans votre famille, sont elles-mêmes parties. Vous, la dernière, puisque vous interrogez pourquoi est-ce que vous êtes sans cesse en mouvement et quand est-ce que vous allez finalement poser vos valises et quelque part... vous libérez aussi, sûrement, de quelque chose, d'un fardeau familial que vous cherchez à nommer pendant tout ce voyage. C'est un peu avec toutes ces questions que vous vous déplacez tout autour de ces deux lacs, sur des terres quand même disputées, puisque en Macédoine du Nord, on est au cœur des influences, mais aussi des conquêtes. Grecque, romaine, byzantine, slave, ottomane. On pense aussi à Skopje, la capitale, où le pays galope quand même derrière son histoire, à grand renfort de monumentales statues d'Alexandre le Grand. Donc il y a quelque chose aussi de très belliqueux. On pense aussi à l'Albanie, où vous allez souvent. On sent que vous y êtes d'ailleurs, vous êtes très attiré par leur histoire, sachant que le peuple lui-même est aux prises avec une mémoire douloureuse. Liée évidemment aux 40 ans de dictature d'Enver Hoxha. Donc on se dit que vous cherchez la paix, mais dans un endroit finalement conflictuel, hier comme aujourd'hui. On se dit que c'est quand même un drôle d'endroit pour chercher la paix.
Oui, c'est ça, en effet, commencer comme une enquête psychologique et émotionnelle à la recherche de voilà, ce qu'on a perdu dans notre famille, surtout les femmes, cette ligne maternelle qui semble transmettre une sorte de douleur, de souffrance, de ce sentiment de perte catastrophique. Et je suis un peu partie à la recherche de ça, de la source. Ben ouais, ça s'est avéré littéralement un retour aux sources. Donc c'était la psychologie de ce déchirement, de cette dispute. Qu'est-ce qui nous fait ça à nous, les femmes, qui sont les enfants de ces frontières meurtrières? Qu'est-ce que ça nous fait à nos corps même? La santé, la recherche, la guérison, ce qui est d'ailleurs un grand thème dans la région des lacs, même à travers les fresques qu'on trouve dans les églises. Beaucoup de ces églises servaient à l'époque comme une sorte d'hôpitaux, tous les monastères accueillaient des patients, accueillaient des gens souffrant de... Par exemple, le monastère de Saint-Naoum avait des chambres consacrées aux mélancoliques, aux dépressives, aux fous. Et cet effet guérisseur, calmant, paisible de l'eau, s'est installé aussi dans mon expérience, dans mon récit, dans toutes mes rencontres avec les gens qui me disaient « Nous sommes des gens des lacs, on n'aime pas la guerre ici ».
Au couchant, le lac semblait comme teinté d'or par une peinture déversée depuis l'horizon. Le lac était ouvert, illimité. Impossible de dire où chacun des trois pays débutait, où il s'achevait, ni pourquoi, pour l'amour du ciel, on avait jugé nécessaire de diviser un lac entre trois nationalités, de séparer Golemgrad, la grande, de sa sœur Maligrad, la petite. Des pélicans, des canards et des oies étaient ballottés sur l'eau. Seuls les humains étaient emprisonnés derrière des démarcations qu'ils s'étaient eux-mêmes infligées. L'héritage fataliste de ce pays était inscrit dans l'aura de son peuple. J'avais beau rencontrer davantage d'hommes que de femmes, les femmes du lac me semblaient avoir une présence plus prégnante. Mortes ou vivantes, elles incarnaient l'élément lacustre, les profondeurs génératrices où le désir et le chagrin ne cessaient de bouillonner. Je me suis assise sur l'herbe sèche, au-dessus de Zavère. Je me suis imaginé une procession, les femmes des lacs. Des femmes lavant le linge, des enfants sur le dos, réparant des filets de pêche, défiant à la rame les vagues mauvaises dans ces tchounes aux allures de cercueil, flanquées de mules chargées et des citadines en talons hauts, munies de livres et de cahiers, de rêves de grand amour, de réussite. L'eau est indestructible. De tous les éléments, l'eau est celui qui survit à tous les autres. Elle éteint le feu, elle s'insinue dans la terre, fait pourrir le bois, corrode le métal, s'évapore dans l'air pour ressurgir sous sa forme première. Les authentiques hommes et femmes des lacs possèdent les vertus de l'eau. L'instabilité, le silence, l'endurance, les lacs sont le plus fidèle récit de leur vie.
Kapka Kassabova, au contact de ces hommes, mais surtout de ces femmes des lacs fortes, pugnaces, que vous imaginez dans cet extrait de votre livre, L'écho du lac, aussi indestructible que l'eau, finalement à leur contact, au bout de ce voyage. Est-ce que vous avez trouvé la paix au bord du lac?
mon voyage et le livre lui-même s'achève avec, avec une plongée à la source même du lac, qui est bon, une des plus grandes sources. Il y en a trois, les sources de Saint-Naoum. Et c'est un lieu...
Est-ce qu'on peut expliquer qui est Saint-Naoum ? C'est un évangélisateur. On a entendu parler de Saint-Clément d'Ohrid. Saint-Naoum était également un disciple de Cyril et Méthode. Il a porté l'écriture et la culture, l'orthodoxie slave, jusque dans les Balkans. Sachant que lui, il était plutôt du genre ermite. Et on lui prête effectivement des vertus de guérisseur. Oui. Il est enterré dans un monastère magnifique qui est tout proche de l'Albanie, où il y a beaucoup de gens qui se pressent, des orthodoxes bien sûr, mais il y a aussi d'autres religions et des curieux.
Il y a des musulmans.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'on dit qu'en collant l'oreille sur la tombe de Saint-Naoum, qui est enterré justement sur le site du monastère, on pourrait entendre les battements de son cœur. Et que quelque part, seuls les cœurs purs peuvent l'entendre, ce battement.
Oui, il y a beaucoup d'histoires orales. Ça fait déjà 1000 ans que Naoum est mort. Ce moine qui était une figure vraiment intéressante et qui est plus qu'un saint, c'est un talisman du lac. C'est un talisman pour les gens du lac. Et qu'il a par exemple apporté la viticulture dans la région.
Parce qu'il y a beaucoup de vignes.
C'est parce qu'on produit beaucoup de vin. Et qu'il guérissait justement les mélancoliques et les fous. Donc c'est très symbolique de se plonger dans les sources de Naoum, qui était là avant Naoum, avant les monastères, et qu'en effet, la vénération de l'eau est peut-être le plus ancien geste rituel humain. Et ce n'est pas pour rien que les monastères, les tékés, les mosquées sont toujours situés dans les Balkans, près d'une source. Et que c'est un lieu, cette source, ça forme un petit lac en soi-même, avant d'aboutir au grand lac de Ohrid. Et par là commence la grande rivière du Drim, qui est encore une autre histoire d'émigration de poissons jusqu'à l'Atlantique. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas tirer trop de conclusions théoriques sur ce qu'est la guerre et la paix. C'est un voyage à la recherche de la guerre et la paix, mais c'est des grands termes. Et pour moi, ce qui est de plus honnête et de plus direct aussi comme expérience dans la vie, c'est de faire une expérience physique et se plonger dans ces sources et dans ce lac, là où la fraîcheur des sources rencontre la chaleur du lac, il n'y a rien de plus beau.
Donc le voyage s'arrête là, et comme vous dites, il n'est pas définitif, il en appelle peut-être d'autres. C'est ça?
J'écris un troisième livre qui sera situé au Balkans du Sud, qui en effet se déroule dans les trois montagnes d'une grande rivière.
On en reparlera et on espère vous accueillir pour en parler justement dans l'émission. Capka Kassabova, merci.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de vos deux ouvrages parus aux éditions Marchiali, Lisière et L'écho du lac, deux récits de voyage denses et passionnants, difficiles à oublier et dont il faut absolument, puisque je ne l'ai pas fait jusque-là, souligner la brillante traduction de l'anglais au français par Morgane Cézanna. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives sonores et merci à Lucie Bouteloup pour ses lectures. Laura Larry, Céline Develay-Mazurel, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages et d'ici là, portez-vous bien, voyez grand et surtout loin.
Retrouvez Si loin, si proche quand vous le souhaitez en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.